On va commencer pour ne pas perdre de temps cette conférence qui doit durer quand même 1 heure et demie de présentation que va faire Isabelle Cros qui est ici à ma droite. À partir d'un travail qui est un travail de photographe qu'elle a fait avec Jacques Borel qui n'est plus parmi nous et auquel d'ailleurs nous rendons un hommage ici. Ce travail a été présenté une première fois dans la région, peut-être certains d'entre vous le savent, en tout cas le maire de Casals qui est ici le sait, puisque c'était à la mairie de Casals le 2 mars de cet hiver. Et figurez-vous que pour ce sujet, à Casals, le 2 mars, il y avait à peu près 250 personnes. Alors on était un peu inquiet aujourd'hui du nombre que nous serions et comment on ferait tenir notre public dans cette salle, mais bon, ça marche, ça marche. Voilà, je voudrais remercier Isabelle Cros, je voudrais remercier aussi l'AVQR qui est représenté ici par Françoise Deitos, parce que, et le président Étienne Poussou que j'ai aperçu bien sûr, voilà, ils ont contribué à la confection vidéo de ce qui va être montré dans un instant. Voilà, on a préparé cette réunion aussi en prenant contact avec les associations qui veillent à la protection des oiseaux et à leur connaissance. Je pense à la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne, représentée ici par son président, Pierre Siorac, merci d'être venu. Aussi à la Ligue de protection des oiseaux du Tarn, qui s'intéresse, vous le savez sans doute, à nos falaises, puisque les falaises sont occupées par les oiseaux, mais aussi par les escaladeurs et par les promeneurs, et qu'il faut assurer la cohabitation telle que la protection soit assurée. Voilà ce qui est l'objet. Vous aurez, à la fin de la séance, qui ne sera pas avant 7 h 30, la liberté d'acquérir des vidéos faites par l'AVQR, l'Association des vidéastes du Quercy et du Rouergue, consacrée aux oiseaux. Françoise Deitos est là pour ça. Elles sont en vente ici au prix de 10 € la vidéo. Et de même, la librairie Le Tracteur Savant avait promis d'apporter ce qu'elle a comme ouvrage consacré aux oiseaux, aussi bien les oiseaux des jardins que ceux des falaises. Et s'ils viennent, vous pourrez aussi, à la fin de la séance, en acquérir. Voilà, je m'arrête là. L'objectif pour nous à la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, en retenant ce sujet, c'est pas seulement d'avoir beaucoup de public, ça on était sûr qu'il serait là, c'est aussi de découvrir un peu, pour ceux qui n'y sont pas déjà familiarisés, la question de la préservation et de la connaissance des oiseaux, comment on combine protection et connaissance. Et dans notre société qui fait beaucoup de choses, on n'a encore rien fait qui relève de l'observation et de la connaissance du monde des oiseaux, en particulier de ces oiseaux des falaises qui sont une originalité de notre coin. Voilà, et c'est donc un des objectifs que nous poursuivons. Peut-être qu'il naîtra de cette rencontre des initiatives de cet ordre. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Isabelle Cros qui va mener sa conférence sur 1 h 30. À vous.
Donc, ben voilà, je me présente. Je suis Isabelle Cros. Je pratique la photo animalière depuis 6 ans maintenant. Et c'est Monsieur Borel qui partageait cette passion avec moi, qui m'a appris la photo, la vidéo, mais aussi l'éthologie, qui est l'étude du comportement animalier. Donc, il devait présenter ce diaporama ce soir, mais malheureusement, vous le savez, il nous a quittés récemment. C'est donc moi qui vais le remplacer. Et toutes les photos et vidéos que vous allez voir ce soir, nous les avions faites ensemble. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que je dis souvent nous dans ma présentation. Alors, le diaporama que vous allez voir ce soir, nous l'avions présenté au mois de mars à Casals. Et ce soir-là, juste avant le début du diaporama, notre ami Michel Limeyrac, qui nous accompagnait, a été victime d'un arrêt cardiaque. Donc, nous avions dit à M. Borel, si Michel s'en sort, nous referons ce diaporama pour lui. Grâce ce soir-là à l'intervention de gens issus du milieu médical qui étaient présents dans la salle ou qui étaient formés au premier secours, grâce aux défibrillateurs de la mairie, aux pompiers, au SAMU, Michel, et puis ensuite d'une grosse opération chirurgicale, Michel s'en est sorti. Alors, Michel, ce soir, je suis très heureuse de t'accueillir parmi nous en tant qu'invité d'honneur. Bon, Michel, il ne va pas vous le dire, mais c'est un super photographe. Il fait des photos de paysages extraordinaires, notamment en infrarouge. Alors, à la fin du diaporama, allez le voir, il vous donnera le nom de son site, vous verrez, il fait des choses fabuleuses. Donc, pour en revenir à notre diaporama de ce soir, quelques explications. Je fais de la photo animalière, non pas seulement pour des portraits d'oiseaux ou de mammifères, Bon, les portraits, c'est bien quand on a une nouvelle espèce qu'on n'a jamais vue ou jamais photographiée. On fait surtout de la photo animalière pour saisir des attitudes. Des attitudes qui vont nous permettre, mises bout à bout, de comprendre le comportement de l'animal. Je travaille quasi uniquement à l'affût, ce qui évite au maximum le risque de dérangement. Je possède environ 4000 photos de grand-duc, autant de pèlerins. Non, partez pas, hein, je ne vais pas vous passer ça ce soir. Hein. Ce soir, vous aurez droit qu'à 350. Donc, pour terminer, je voudrais apporter une dernière et importante précision. Vous allez voir des photos d'oiseaux très jeunes prises dans le nid. Ne croyez pas que nous avons escaladé les falaises pour aller photographier ces oiseaux. Nous n'avons dérangé aucunement. Pour indication, nous sommes à environ 100 à 130 mètres des oiseaux. Donc, pour mieux vous expliquer, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les progrès du numérique avec trois images. Donc, on va prendre l'exemple de cette image. Vous voyez, c'est un oiseau, c'est un faucon pèlerin qui est en haut de la falaise. Vous voyez la taille qu'il occupe dans l'image. Alors, avec les progrès du numérique, nous allons pouvoir cropper l'image, c'est-à-dire garder uniquement une partie de l'image et pouvoir l'agrandir. Alors, d'abord, nous allons commencer par enlever les fils qui sont à droite. Donc, déjà, on se rapproche un petit peu. Ensuite, on va enlever le gros caillou qui est à gauche. Voilà, donc là, vous avez plus le sentiment d'être tout près de l'oiseau. Pourtant, je suis toujours à 120 mètres à peu près de lui. On peut aussi agrandir davantage, mais on va perdre la qualité dans l'image. Donc là, on a perdu un peu de qualité, mais bon, on est vraiment tout proche. Pourtant, je suis toujours à la même distance. Concernant les questions sur le matériel que j'utilise, vous pourrez poser les questions à la fin du diaporama. Donc, les grands ducs, alors, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est que vous avez espoir de les voir. Alors, vous avez, tout au long de l'Aveyron, des panneaux qui vous indiquent, ici, niche les grands ducs. Alors, ici, c'est pas ici précisément, ça vous indique surtout le biotope, c'est-à-dire le milieu dans lequel ils vivent généralement. Je vais vous donner des conseils pour les situer et essayer de les voir. Surtout, apprendre à les chercher, parce que je ne vais pas vous mettre des chiffons rouges tout le long de la vallée de l'Aveyron pour vous dire, attention, il y a des grands ducs ici. Pour les voir, il vous faut une bonne paire de jumelles. Une bonne paire de jumelles, ce n'est pas des jumelles à 1500 euros. Avec 100, 120 euros, vous en avez largement assez. Il faut un bon compromis sur ces jumelles entre la distance et le grossissement. Alors, si vous cherchez à acheter des jumelles, prenez plutôt des 10-42, c'est un très bon compromis. Ensuite, il faut être très méthodique. Alors, on découpe la falaise avec les jumelles, c'est au sens figuré évidemment, dans les deux sens, vertical, horizontal, et au bout d'un moment, il y a quelque chose, s'il y a un oiseau, qui va vous faire un tilt. Et c'est là, à ce moment-là, que vous aurez peut-être trouvé un grand-duc. Voilà, ensuite, quand vous en aurez trouvé un, vous aurez peut-être moins de problèmes pour trouver les autres. Donc, la plus grande opportunité que vous aurez de les voir, c'est surtout le soir, en vol, à la tombée de la nuit. Juste un peu avant que la nuit n'arrive, vous voyez passer ce genre d'oiseau dans le ciel. Bon, celui-là, il a une aile abîmée, bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de voler. Donc, les détails qu'il vous faut reconnaître quand vous voyez cet oiseau en vol, c'est d'abord sa tête ronde. C'est très caractéristique. Une queue qui se détache bien et des ailes qui ont beaucoup de surface. Alors, le grand-duc est un oiseau qui fait 1,80 m d'envergure. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer ce que ça représente. Voilà, en vol, c'est l'envergure de cet oiseau. Donc, si vous ne le voyez pas, je sais pas, il faut aller voir l'opticien, je pense. Hein. Donc, 1,80 m en vol, c'est le plus grand rapace nocturne européen. Et nous avons la chance de l'avoir ici. Le poids, la femelle fait environ 4 kg. Le mâle est un peu plus de la moitié, 2,5 kg, 3 kg. La taille posée, il fait entre 75 et 80 cm de haut. Voilà, il peut porter des proies jusqu'à plusieurs kilos. Il peut porter un chat, ça ne va pas le gêner, un renardeau, un faon de cervidé. Par contre, le grand-duc est feignant de nature. Il prend tout ce qu'il trouve. Hérissons, ragordins, les épiphygères, ce sont les grosses sauterelles vertes qu'on voit dans les champs. Voilà, tout ce qui est bon à manger, ben, ça y passe. Donc voilà, il faut garder en tête surtout la forme du corps et l'importance de sa taille. Alors là, vous avez vraiment la silhouette du grand-duc avec le dos voûté et les deux aigrettes qui sont très visibles et toujours sur une branche dégagée. Alors, le mimétisme. Alors, pour les plus jeunes, je vais expliquer ce qu'est le mimétisme. Le mimétisme, c'est l'art de se camoufler, l'art de se fondre dans la nature en appuyant ses propres couleurs avec les couleurs qui sont dans la roche, dans l'environnement, dans la roche de la végétation, de telle sorte qu'on passe inaperçu. Donc, je vais vous montrer des exemples. Là, vous avez un grand-duc. Bon, il est aussi grand que l'autre, 75 cm de haut. Bon, là, je ne l'ai pas grossi exagérément. Il est au soleil, voilà, tranquille, il fait sa sieste. Un grand-duc comme ça, bon, j'arrive à le trouver assez vite. Mais par contre, 10 minutes après, vous voyez, le soleil n'est plus pareil et on ne le voit plus. Si vous ne savez pas que son perchoir est là, ben c'est fini, vous passez à côté. Alors par contre, j'éclaircis l'image, et là je remercie encore Michel car c'est lui qui nous a appris à travailler les photos. Voilà, là on le voit beaucoup mieux. Je reviens à l'image précédente, dans le noir, et l'image éclairée. Alors voilà un autre cas. Les grands-ducs, ils ne sont pas couillons, hein. Ils aiment être au soleil quand il fait un peu froid, mais ils aiment aussi être à l'ombre quand il fait un peu trop chaud. Donc vous voyez l'image d'un grand-duc qui est dans sa falaise, vous le voyez là ? Je peux l'éclairer, tu vois ? Voilà, il est là. Alors je vais agrandir l'image et l'éclairer un petit peu. Voilà, l'image éclairée, on le voit un peu mieux, pour ceux qui seraient miraux. Oui, on voit bien les déjections de l'oiseau. Il a l'habitude de s'y poser là. Donc, les grands-ducs, ils sont aussi beaucoup dans les ronces, dans la broussaille. Là, on le voit un peu, mais je vous assure qu'à l'échelle d'une falaise, ça fait vraiment petit. Même avec... ouais, là, je suis à peu près à 150 mètres. Donc, j'ai grossi l'image, évidemment, mais... Donc, même avec un appareil performant et les bonnes jumelles, c'est quand même difficile à voir. Alors, regardez celui-là qui est caché là. Vous le voyez ? Voilà, et bien, il sait se servir de son environnement pour se cacher. Voilà, les fleurs jaunes sur le devant, les taches jaunes qu'il a lui-même sur le corps, ça lui permet de passer inaperçu. À droite, vous avez aussi des taches noires long de la faille. Ça va s'appliquer parfaitement à camoufler et les aigrettes et les taches de la poitrine. Il est pratiquement invisible. Si vous n'avez pas l'œil, celui-là, vous allez mettre longtemps à le trouver. Par contre, le soir, quand il s'écarte un peu, ben, on voit que lui. On voit que lui, mais pourtant encore, voilà, il s'est mis dans quelque chose qui le camoufle encore un peu avec la roche noire, le jaune du devant qui correspond à la roche. Alors là, combien vous en voyez ? Bon, vous les avez trouvés, ça y est ? Donc les voilà, ça c'est la même image. Voilà, tout simplement, elle a été éclaircie un petit peu, vous voyez bien, vous les voyez dans la roche. Alors, que fait celui qui est le plus à gauche, d'après vous ? Hein, les enfants ? Il baille ? Ben oui, il baille, c'est possible qu'il baille, parce que pour lui, la fin d'après-midi, c'est le début de sa journée. Mais ça peut être aussi qu'il va rejeter sa pelote. Alors, je vous explique ce que c'est qu'une pelote de réjection. Les rapaces, les oiseaux qui mangent des mammifères, des micro-mammifères ou des insectes, ils ne peuvent pas tout digérer. Donc, ils accumulent dans l'estomac et tout ce qui n'est pas possible de digérer, ils le recrachent sous forme d'une pelote. Alors là, je vous ai porté une pelote. C'est une pelote de chouette effraie. Je n'ai pas de pelote de grand-duc parce que je ne suis pas montée à la falaise les chercher. La pelote du grand-duc mesure à peu près 10 cm de long. Celle-là est beaucoup plus petite. J'en ai quelques-unes là. Si à la fin du diaporama, vous voulez voir de quoi sont faites les pelotes, on pourra en dépiauter. Vous verrez, il y a des os, il y a de tout dedans. Il y a les os, les poils, il y a de tout dans les pelotes. Voilà. Vous viendrez me voir à la fin, je vous montrerai. Donc là, sur cette photo, il y en a deux. Vous les voyez ? Alors, il y en a un ici. C'est difficile. Pourtant, là, ils sont à peu près dégagés. Hein. Alors là, par contre, je vous invite à bien nettoyer vos lunettes. Si vous n'en avez pas, allez en acheter. C'est comme ça qu'ils sont dans la falaise. Hein. Ils ne battent pas des ailes pour se faire voir. Alors, ça, c'est très difficile à voir. À l'ombre, mais oui, c'est ça, regarde, il est là. Tu le vois ? C'est bien. C'est bien. Et le deuxième ? Il est où ? Il est où le deuxième ? Ah, mais t'es terrible, toi, je vais te prendre avec moi le soir. Il est là. Il est là, le deuxième. Alors, lui, on le voit à peine. Hein. Alors, je vais vous montrer l'image. Voilà. Bien éclairci. Voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a le papa qui est à gauche en train de chanter et la maman qui jette un coup d'œil derrière. On voit que l'œil et la queue. Hein. Vous voyez que c'est pas facile à trouver. Hein. Oui, alors là, il faut chercher l'oiseau, là. Hein. Il y a un oiseau qui est caché par là, à vous de trouver. Alors, je vais vous donner un indice, quand même. Il y a un petit truc qui bouge. Et oui, et pourtant, on l'avait trouvé, celui-là, la preuve. C'est la petite plume qui bouge, là. On le voit bouger un petit peu, hein. Alors, vous voyez, à l'échelle de la plume, l'oiseau est très gros. Vous allez le voir sortir de la roche, c'est impressionnant. Le voilà. Ben, il avait l'air de se cacher, celui-là. Vous voyez la plume en bas à droite ? Voilà, c'est la plume de tout à l'heure. Donc, vous avez compris la difficulté de les trouver. Alors, maintenant, on va voir tout ce qu'ils font dans la journée. Alors, en fait, ils ne font pas grand-chose. Voilà, alors en voici un qui est tranquille. Voilà ce qu'il fait dans la journée, il est posé au soleil. Alors là, on voit très bien les aigrettes. Vous voyez les aigrettes, c'est ce qu'il y a au-dessus de la tête. Alors, on dit que les aigrettes, sur les bouquins et sur Internet, on dit que les aigrettes traduisent l'humeur excitée de l'oiseau. Alors, je peux vous dire que j'ai vu des dizaines et des dizaines de grands-ducs qui ne sont pas excités du tout. Hein. C'est vraiment un fantasme de l'auteur. J'ai vu donc ces aigrettes là, les oiseaux que j'ai vus, d'ailleurs celui-là il l'est aussi, il est dans une position tout à fait normale de l'oiseau au repos, il coince la bulle, celui-là est tranquille. Hein. Donc à propos des aigrettes, ce ne sont que des plumes, ce ne sont pas des oreilles. Les oreilles sont cachées sur le côté des yeux et sont sous les plumes, ce ne sont que des plumes. D'ailleurs je vais demander aux enfants qui sont là, quelle est la différence entre la chouette et le hibou ? Voilà, très bien. La chouette n'a pas d'aigrette. Non, non, mais là, ils sont formés, ceux-là. La chouette n'a pas d'aigrette. Alors, il y a le papa chouette et la maman chouette, et le papa hibou et la maman hibou, ce sont deux sortes de rapaces différents. Très proches, mais différents. Voilà, celui-là, on a l'impression qu'il vous regarde. Mais en fait, le grand-duc a des yeux fixes. Il ne peut pas bouger les yeux. Pour voir à droite et à gauche, il tourne la tête. Alors, il peut tourner la tête jusqu'à 240 degrés. C'est-à-dire que sans bouger, il verra facilement la roche qu'il y a derrière lui. Moi, j'ai essayé de le faire, j'ai renoncé. Hein. Alors, celui-là, eh ben, il dort. Voilà. Voilà ce qu'il fait l'après-midi, il dort. Alors, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, voilà, il jette un petit coup d'œil, à droite, à gauche, pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque. Et puis, il se fait un petit peu de toilette, s'il y a quelques parasites par là qu'il chatouille. Donc, les grands-ducs ne sont pas toujours dans les rochers. Ils peuvent être aussi dans les arbres qui ont réussi à s'implanter dans les falaises. Ici, il est dans des buis qui sont centenaires. Enfin, que je dis qu'ils sont, ils y étaient centenaires parce qu'ils sont morts, là. On a eu des attaques de pyrales de buis depuis 2 ans, là. Ça a été une véritable catastrophe pour notre flore et notre paysage. Donc, j'ai vu certains buis qui repartaient de la base S'il n'y a pas d'autres attaques, peut-être qu'ils se sauveront, mais apparemment, il y en a beaucoup qui sont déjà morts. Donc le grand-duc se pose sur des branches d'arbres, mais toujours dans des endroits bien dégagés, parce qu'à 1,80 m d'envergure, il y a besoin de place pour décoller. Voilà, alors là, il surveille le pays de son trou, il est tranquille, voilà. Alors concernant les prédateurs du corbeau, les prédateurs du grand-duc, malheureusement, c'est surtout les hommes qui, volontairement ou involontairement, bien souvent, sont sa première menace. Alors, il y a ceux qui, bêtement, collectionnent les œufs. Il y en a quelques-uns, des gens qui montent dans les falaises pour attraper les œufs. Bon, je ne ferai pas plus de commentaires. Il y a de temps en temps des collisions avec les voitures. J'en connaissais un qui, tous les soirs, avant de partir en chasse, se posait sur une route, au plein milieu de la route. Puis un jour, je ne l'ai plus revu. Donc je suppose que bon, il a dû se faire attraper par une voiture. Il y a les collisions aussi fréquentes avec les fils électriques ou les fils de téléphone. Ça arrive souvent et là, l'oiseau, le pauvre, eh bien, il se prend une aile dedans, c'est fini. Et il y a aussi, ça arrive de temps en temps, des ennuis avec les varapeurs, les gens qui font de l'escalade. Alors je n'ai aucun truc contre les varapeurs, mais j'en ai rencontré il y a 2-3 ans qui grimpaient sur une falaise. Et il y avait sur cette falaise un rebord sur le côté où nichait un grand-duc. Alors on s'était arrêté avec M. Borel pour leur dire de ne pas grimper là, parce qu'il y avait une nichée. Bon, ils nous ont rayonné, ils ne nous ont pas cru, ou ils s'en fichaient complètement. Ils sont montés et au bout de 2 jours, la femelle a abandonné les petits. Alors je sais que la plupart des gens qui font de l'escalade respectent les panneaux d'indication, les dates surtout, pour ne pas grimper. C'est très important. Alors, il n'a pas vraiment de prédateurs. Par contre, il a des espèces qui ne peuvent pas le supporter. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un corbeau. Un jour, on avait trouvé le grand-duc à mi-hauteur dans la falaise. Il était posé là, sur un pic rocheux. Et puis, est arrivé un corbeau. Alors, ce corbeau, il a commencé à... Il ne se supporte pas, parce qu'il faut savoir que le grand-duc, le soir, s'il voit un corbeau sur une branche, il le prend, il le plie, il le bouffe, hein. Donc les corbeaux, ils le savent. Et donc, ils ont ce corbeau, il a commencé à le houspiller en criant, mais le grand-duc, il n'avait rien à fiche, donc il est resté là. Et le corbeau est allé se poser 20 mètres au-dessus, sur un autre pic rocheux, et c'est malheureux, je n'ai pas de photos ni de vidéos à vous montrer, mais il a pris avec son bec des cailloux, et il se penchait au-dessus de la falaise, et il faisait tomber les cailloux sur le grand-duc. Et le grand-duc, dessous, il essayait d'éviter avec son corps les cailloux. C'était incroyable à voir. Il faut savoir que le corbeau est l'oiseau le plus intelligent au monde. Il est capable de se servir d'outils, comme des branches ou autres, pour arriver à ce qu'il veut faire. Bon, là, finalement, c'est le grand-duc qui a gagné. Alors, vous allez voir... Le corbeau qui houspille le grand-duc. Donc voilà, alors ça c'est une image qui est faite en hiver. Alors bon, il était au fond du trou là, et puis le soleil a tourné, donc il s'est avancé pour se réchauffer. Voilà, des fois on le voit au trou, devant un trou quelconque, sur un caillou, sur une branche. Celui-là est en train de bâiller, alors ça c'est un signe que l'après-midi va se terminer, il va commencer sa journée, il se réveille. Là. Alors quand il a fini de bâiller, il chante. Alors un grand-duc qui chante, il a sous le cou une tache blanche qui est visible au moment du chant. Rappelez-vous bien de ça, c'est quelquefois très important pour le trouver. Donc à la fin de l'après-midi, à son réveil, il commence bon, par s'ébrouer. Voilà, ensuite il s'étire, parce que ça c'est le stade avant le départ. Ben, il faut savoir qu'il a dû faire 12 heures non-stop sur son bout de rocher, donc il est un petit peu engourdi. Donc il s'étire, hein. Il se fait un petit peu de toilette. Voilà, et toujours dans ce mimétisme, toujours se mettre au bon endroit pour ne pas être vu. Entretenir le plumage chez un oiseau et notamment un rapace, c'est fondamental. Pour lui comme pour tous les prédateurs, c'est son outil de chasse. Un oiseau qui n'a pas de bonne plume, il meurt de faim. Il lui faut avoir un outil de chasse parfait, impeccable. Voilà, celui-là, il est monté un peu plus en crête là, pour avoir encore le soleil du soir. Alors là, ce qui est impressionnant sur cette photo, on va voir les serres de l'oiseau. Voilà, ce sont des serres, on doit faire à peu près 8 cm par là, peut-être plus. Donc vous remarquerez aussi qu'ils ferment les yeux. Parce que ces armes, il se méfie de ses propres armes. Là, il est en train de se nettoyer le bord de l'œil ou le bord du bec, mais il se méfie vraiment de ce qu'il a, c'est comme des couteaux, quoi, ses serres. Hein. Voilà, ça c'est un juvénile, hein, un petit jeune. Voilà, alors il nettoie ses plumes, oui, comme demandait le jeune homme, là. Et alors, il les attrape une par une. Et il va les lisser jusqu'au bout. Voilà, méthodiquement. Voilà. Ensuite, sur le ventre. Le bec aussi est impressionnant. Hein. Les pattes. Là, c'est un jeune qui perd son duvet, donc ça doit le démanger pas mal. Voilà, le bec. Le mec, il le frotte contre les branches pour bien le nettoyer. Donc voilà, celui-là, il est prêt au décollage. Il est bien réveillé, il n'y a qu'à voir son regard. Voilà, et là, c'est le moment le plus facile pour trouver les oiseaux, hein, sans doute parce qu'ils se déplacent. Alors, on le trouvera à l'œil. Il ne faut pas espérer les entendre parce que le vol est complètement silencieux. Il peut attraper une souris, un rat qui est dans un pré. Le rat, il n'entendra pas arriver, hein. Voilà, il va se poser sur un point d'où il va dominer la vallée. C'est aussi une façon de se mettre en relation avec son partenaire. Et là, ils vont se parler de l'un à l'autre, en haut de la falaise. Voilà, ça c'est une femelle qui s'est mise aussi sur une pointe de rocher. Toujours des endroits bien dégagés, parce qu'ils ont besoin de place pour atterrir et décoller. Et puis quand il y aura les accouplements, il faudra la place aussi. Voilà le mâle, tout à fait en pointe. Voilà, il chante. Et là, on verra que on verra tout à l'heure, je vous expliquerai, que c'est un mâle qui chante pour parler à sa femelle et non pas pour défendre le territoire. Alors, regardez bien cette vidéo, elle est assez rare. Regardez-la avec soin parce que vous ne le verrez pas souvent. Là, je suis à peu près à 80 mètres de l'oiseau. Donc, nous avons vu leurs occupations du jour. Et ensuite, enfin l'après-midi, le grand-duc va se déplacer. Il va quitter son poste du jour et c'est vraiment le moment de les voir, de les localiser si vous ne les aviez pas trouvés avant. Alors, le décollage, c'est d'abord une projection. Plus que les ailes, il se pousse avec les pattes. Il se pousse pour se lancer et il en profite pour monter les ailes de telle sorte que quand il va les rabattre, il puisse s'appuyer sur l'air. Ça, c'est le premier stade de l'envol. Vous voyez encore une projection, ça c'est celui qui vous a fait chercher tout à l'heure. Là, hein. Il pousse, alors il monte les ailes, et ensuite il va se laisser planer. Comme il était relativement haut déjà dans la falaise, il ne va pas donner un coup d'aile de plus, hein, il s'économisait. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un feignant. Hein. Voilà, là il se laisse planer, c'est toujours le même procédé. C'est quand même les 1,80 m d'envergure qui se baladent. Hein. Alors, si vous ne le voyez pas là, ben, je pense qu'il faut changer de cible, peut-être aller observer les baleines, ou je ne sais pas. Voilà, il y a un moment qui annonce le poser. C'est la même attitude qu'un avion qui sort les aérofreins pour diminuer sa vitesse. Là. Il réduit un petit peu la voilure, et il va passer les pattes de devant et se poser. Bon, enfin, vous... C'est comme tous les oiseaux, me direz-vous, mais avec un grand-duc, eh bien, on peut davantage voir les détails, c'est plus pratique. Alors nos oiseaux, ils sont là dans la falaise, assez haut en général. Et puis un jour, vous avez une chance inouïe que l'oiseau vienne se poser très près de vous. Je peux vous assurer que cette image, je l'ai attendue longtemps, plusieurs années avant de la faire. C'est vraiment des moments très particuliers pour un photographe. C'est quelque chose d'absolument incroyable parce que ça se gagne. Alors l'échange, je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important. Le soir, quand le grand-duc est posé, il se met à chanter. Et c'est le signe que vous devez voir avec jumelles, c'est cette tache blanche-là qu'il y a sous le cou. Et à tous les voyages, ça marche quand il chante. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a deux types de chants. Il y a, à l'automne, le marquage du territoire, parce qu'ils viennent d'évincer les jeunes du couple ont été évincés, Et donc, le grand-duc, lui, il veut marquer vraiment son territoire. Et il chante pour dire, bon, ici, c'est pris, la falaise, elle est prise, vous pouvez pas, personne ne peut venir. Hein. La maman est prise aussi, donc allez voir ailleurs si j'y suis. Et puis, à partir de décembre, il y a le chant qui est adressé à la femelle. Là, on ne peut pas voir sur les photos, mais nous, en observant, on voit bien que le chant ne s'adresse qu'à la femelle qui va lui répondre. Ensuite, le reste de l'année, on l'entend beaucoup moins. Alors celui-là, il est en haut d'un arbre, là, il chante en direction de sa femelle. Et vous voyez l'attitude caractéristique de l'oiseau qui chante, du grand-duc qui chante. Il a les plumes de la queue levées, les ailes qu'il laisse tomber sur le côté, les ailes assez basses, et la poitrine dégagée. Alors celui-là, il est tout fier, il fait le cake, là. Vous voyez ? Et toutes ces attitudes impressionnent et provoquent la réponse de la femelle. Qui tout ceci précède les accouplements. Vous voyez, on le voit bien là, son attitude. Voilà, toujours la queue relevée, les ailes tombantes. Voilà, et sur un point proéminent, et puis il chante. Là aussi, l'attitude caractéristique. Donc, les amours, alors là, cramponnez-vous. Hein. Alors, je résume. Alors, on a trouvé où les grands-ducs et ce qu'ils faisaient l'après-midi. Alors, ils chantent à l'automne pour séduire la partenaire jusqu'à 8-10 jours avant le Noël. Après, quand il a séduit sa partenaire, on passe au stade 2. Les déclarations d'amour sont finies et on va passer à la réalité. Alors ça, c'est de fin décembre jusqu'en février, en principe. Alors à partir du 15 décembre, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'on voit les deux oiseaux qui sont ensemble. De toute l'année, les grands-ducs vivent dans la même falaise, mais à 150 mètres de distance l'un de l'autre à peu près. Et là, au moment où vous les voyez ensemble, vous pouvez dire que les accouplements sont là. Alors on les voit côte à côte, là, comme on a vu sur le film tout à l'heure. Voilà, maman s'est rapprochée un petit peu. On voit maman à droite, elle est un peu plus grosse que le mâle. Voilà, vous voyez bien les deux. Voilà. Donc là, je plaisante parce que, en fait, quand on a fait la photo, on n'avait pas vu la femelle qui était dessous. C'est uniquement quand on regardait la photo sur l'ordinateur et qu'on a grossi qu'on s'est aperçu que la femelle y était aussi. Alors, où ça se passe, hein? Ça peut être sur une branche. Généralement, une branche bien dégagée, parce qu'il va falloir qu'il y ait de la place, là. Voilà, vous voyez les deux. Alors, vous remarquerez bien la différence de gabarit entre le mâle qui est au premier plan et la femelle qui est plus grosse derrière. Elle n'a pas l'air commode, d'ailleurs. Elle n'a pas l'air contente. Alors, c'est la femelle qui choisit son emplacement pour l'accouplement. Dans 90% des cas, c'est elle qui choisit. Voilà, ça peut se passer aussi sur une branche isolée ou un arbre isolé. Sur cette branche, elle a l'air de rien, mais on a dû y voir au moins 50 accouplements. Et puis tous ceux qu'on n'a pas vus, sûrement. Voilà. Là, c'est sur un rocher proéminent. Alors, la durée. Alors, ça va. Ça, c'est vraiment du rapide. Alors, on a très peu d'images correctes sur les accouplements de grands-ducs, parce que ça se passe souvent vraiment à l'arrivée de la nuit. Cette image, pour ceux qui connaissent, elle a 32 000 ISO. Donc ça veut dire que normalement, c'est une image qui va à la poubelle. Hein. On a réussi à les travailler un petit peu pour que vous puissiez voir. On travaille en rafale uniquement sur ces moments-là parce que nous avons des appareils qui font à peu près 11 images par seconde. Donc en 3 secondes, vous avez 33 images. Et là, ça vaut vraiment la peine de faire de la photo parce qu'en vidéo, le temps que vous ayez dit « Ah, ça y est, ça arrive, top, c'est fini. » Donc là, on voit l'oiseau qui se présente, le mâle qui se présente, les serres en avant. La femelle, elle s'accroche, elle est bien campée sur ses jambes et elle attend. Hein. Elle a poussé un cri très particulier, vous l'entendrez tout à l'heure, qui annonce à coup sûr qu'il va y avoir un couplement. Alors, il ne se pose pas du tout avec les serres en avant. Il se pose sur les coudes, comme tous les rapaces. Parce que sinon, la pauvre... Voilà, alors au début, ça tangue un peu. Hein. Monsieur essaie de ne pas perdre l'équilibre. Madame, eh ben, elle essaie de tenir le coup. Elle s'accroche. Hein. Voilà, il se stabilise. Il se met dans l'axe. Il s'équilibre avec les ailes. Puis, il lui attrape les plumes en haut de la tête. Ou pour lui dire que ça va arriver, ou alors que pour se tenir, je ne sais pas trop. Voilà, là, on le voit déjà mieux. Il a les ailes bien parallèles. Il est parfaitement tranquille. Voilà, il se repose en arrière. Et voilà, c'est fini. Attention au départ. Notez la position de la queue de la femelle. D'habitude, elle l'a toujours dans l'axe du corps. Et là, elle l'a relevé et elle l'a poussé un petit peu sur le côté pour favoriser. Voilà, ça a duré quelques secondes. Hein. Alors ça, c'est cette fameuse branche-là. Ça n'a pas l'air très stable, mais apparemment, ils aiment bien ça. C'est peut-être que ça les motive. Ouais. Alors ça, c'est le mâle que vous entendez. Vous allez entendre la femelle à côté. Voilà la différence de ton. La femelle, c'est un ton plus au-dessus. Voilà, vous avez entendu le petit cri à la fin. Voilà, celui-là, là, c'est le cri qu'on entend avant et après l'accouplement. Je ne sais pas si c'est de satisfaction ou quoi, je ne l'y ai pas demandé. Voilà, donc la fin des amours, ben, comment on sait que c'est fini? Eh ben, en fait, on ne le sait pas vraiment. On a un couple que l'on suit très régulièrement et plusieurs fois, on ne voyait plus la femelle. Donc, on pensait que la maman était en train de couver. Mais ben non, parce que 2-3 jours après, on revoyait la maman, tic-tac, ça recommençait. Il faut savoir qu'il y a 36 jours de couvaison, 15 jours les petits avec maman, et 15 jours à 3 semaines de plus, et maman à côté. Donc c'est toujours très aléatoire. Ça dure très longtemps, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. Donc la femelle, après l'accouplement, son premier travail, ben, elle sera juste. Ben, elle a été secouée un petit peu, donc elle s'ébroue. Elle se fait un petit peu de toilette. Et puis voilà, le mâle, c'est tout seul à nouveau. Là, on ne les verra plus côte à côte de toute, jusqu'à la prochaine saison. Alors, les petits, là, je vous rappelle que je me trouve à une distance d'environ 120 mètres de l'air. Si un jour vous trouvez une nichée de grand-duc, et cela est valable pour les grands-ducs comme pour tous les autres oiseaux ou autres, s'il vous plaît, ne cherchez pas à les approcher. C'est une espèce hypersensible, on l'a vu tout à l'heure avec la varape et l'escalade. Alors, les petits sous la mer, on a très peu de photos parce que justement, on n'a pas cherché à escalader la falaise et à approcher le nid. Mais on avait trouvé maman à coucougner, comme on dit dans le midi, à coucougner sur sa falaise et sur un morceau de falaise. Là, et puis, elle y est restée pendant 4-5 jours. On s'est dit que peut-être, là, c'était un signe. Et puis, effectivement, un beau jour, voilà, on a vu les petits à côté de maman. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut bien compter 36 jours de couvaison, 15 jours sous maman, 2 à 3 semaines de plus avant qu'on les voit sortir, et ça fait vraiment long quand on les attend. Vous voyez, c'est un gros plat, là, maman est tout près. Vous notez la présence des plumes, c'est un signe aussi qui doit vous dire que là, il y a peut-être des repas qui se font. Hein. Voilà, alors tantôt il y en a un, tantôt il y en a deux. Voilà, on dirait une peluche. Hein. Alors les premiers pas des petits, là on a vu maman qui quitte l'endroit où elle a niché, et ça c'est un très bon signe, ça veut dire que les petits commencent à se débrouiller tout seuls. Donc ils commencent à évoluer un petit peu autour de l'air là. Voilà, maman est quand même à 30 mètres, là, elle ne les quitte pas les yeux, elle surveille. Vous le voyez, celui-là, il est top, il joue à cache-cache, celui-là. Voilà, il joue, il se cache derrière les feuilles, il regarde passer les corneilles qui volent, merle, n'importe quoi, tous les amuse. Voilà, ils sont très homogènes en couleur quand ils sont les premières sorties. Là, c'est vraiment notable. Tout en duvet. Voilà, deux petites peluches. Alors, à partir du moment où il commence à s'agiter un petit peu, l'émancipation va à une vitesse incroyable. Là, vous voyez maman qui surveille le nid. Vous la voyez en haut, là-haut. Et vous avez en dessous les deux petits. Voilà, elle ne les quitte pas les yeux. Hein. S'il y a une corneille qui s'approche, malheur à elle. Hein. Elle est toujours très proche. Alors là, les petits, ben, ils mènent leur petite vie tranquille. Ils sont deux, des fois trois, ça arrive. Voilà, ils commencent à s'éloigner un petit peu. On commence à voir des modifications là, dans la couleur du plumage. Voilà, ils découvrent l'aviron. Là, c'est une grande expédition. Il est déjà à 12 mètres entre le nid où il est né et l'endroit où il est. Il y a, ouais, il y a à peu près 12 mètres. Voilà, les fientes. Alors, ces fientes-là, vous voyez, elles durent 4 à 5 ans. Les traces restent 4 à 5 ans dans la falaise. Alors, si vous trouvez des fientes en observant avec les jumelles, ça peut dire qu'il y a un nid, mais ça peut aussi dire qu'il y a été, mais que c'est trop tard, hein, vous êtes arrivé trop tard. Bon, ça, c'est une image facile, hein, on y a droit tous les soirs. Hein. Alors, celui-ci, il joue avec une plume de corneille. Et vous voyez, à gauche, il y a une plume de jet. Voilà, et ça nous permet de savoir à peu près le menu pratiquement jour après jour. Alors, on voit les plumes qui s'ajoutent les unes aux autres. Et on a vu des plumes de corneille, de jet, de palombe, de merle. Voilà, bon, il leur arrive de tomber aussi. C'est arrivé une année. Il y en a un qui est tombé, qui s'est cassé une aile. Et maman l'a quand même nourri pendant longtemps en bas de la falaise. Et puis c'est madame Gabu de Saint-Antonin qui l'a récupéré, qui l'a amené dans un centre. Bon, ils n'ont pas pu réparer l'aile, mais il est toujours en vie. Donc les petits, l'autonomie, ben, ici on voit bien que les aigrettes commencent à apparaître. Ça c'est un signe qui est marqué. Et les couvertures primaires qui vont aussi prendre leur vieille couleur. Ils perdent peu à peu de leur duvet. Et ceux-là, ils sont partis du nid et ils y reviendront plus, c'est terminé. Hein. Une fois qu'ils sont partis, simplement, ils vont prendre de l'exercice tous les jours en s'éloignant de plus en plus. Alors là, vous avez ce qu'on appelle la fameuse plongée avant. C'est l'oiseau met sa tête en avant, il a deux ailes en l'air, c'est une forme d'étirement. Voilà, là, c'est l'entraînement au vol parce qu'il a besoin de prendre des forces et puis de l'assurance. Hein. Alors, quand ils partent, des fois, ils ont des petits ennuis. Celui-là, il se retrouvait dans un endroit complètement paumé. Et visiblement, il ne savait pas trop où aller. Alors, il a décidé que le sommeil lui porterait conseil. Et puis après, il s'est relancé pour voir s'il pouvait repartir. Mais même en avançant d'un bon mètre, les choses ne vont pas beaucoup mieux. Alors, vous voyez, il y a de la pente. Alors, il bat des ailes, et c'est pour ça qu'elles sont floues. Hein. Il bat des ailes, il essaie de se tourner, il est cramponné. Regardez les serres, comment elles sont fixées à la roche. Et malheur à lui, il y a un corbeau qui est passé par là et il a adopté l'attitude de défense des grands ducs, c'est-à-dire qu'il se penche en avant, la tête baissée, les ailes levées au-dessus du corps. Voilà, c'est pour essayer de faire peur à l'assaillant. Le pauvre diable, si le corbeau il avait voulu. Hein. Et celui-là, il est parti à 80 mètres de son endroit de naissance. Hein. Voilà, celui-là, il commence à être un peu grand. Il fait une toilette normale, là, comme les adultes. Là, il nettoie les plumes de la queue. Voilà, un petit portrait. Et alors, une seule fois, nous avons vu un des parents venir les nourrir en journée. C'est très rare. Et là, le temps qu'on ait compris, on a juste eu le temps de faire une photo. On n'a même pas vu la proie qu'a portée l'adulte. Elle a posé et ils sont rentrés dans les genêts aussitôt. On n'a pas pu voir ce qu'elle lui avait porté. Voilà, donc ils grandissent tous les jours un petit peu. Un peu de gym. Voilà, ils doivent bien manger aussi, hein, parce que les parents les nourrissent régulièrement. Et celui-là, eh bien, il est émancipé, il est tombé en bas de la bas. Enfin, tombé, il est allé en bas de la falaise, il est sur un arbre, là. Voici deux autres émancipés. Toujours les mêmes attitudes, la plongée avant. Alors, pour vous donner une idée de la date, cette photo était prise un 1er mai. Donc, ils ne vont pas tarder à partir, hein, alors qu'il est né au mois de mars-avril à peu près. Alors voilà ce que donnent les petits au moment où les parents ne veulent plus les voir. ils sont déjà bien, bien formés. Alors vous voyez, celui-là, il va se faire injecter dans les 10-15 jours, sauf en cas de nécessité où les parents continueront à s'en occuper. Voilà l'envergure déjà à cet âge-là, et c'est impressionnant. Hein. Donc on a dit que le grand-duc qu'on vient de voir, c'est l'empereur, c'est le roi de la nuit avec sa grande taille. Là, avec le faucon pèlerin, ben, pas du tout. Et là, on a plus affaire à un artiste. Alors, le faucon pèlerin, c'est le prince des oiseaux. En fauconnerie, c'était l'oiseau qui était très recherché. Plus au nord, les gens chassaient avec des faucons gerfaux, et plus au sud, avec des faucons laniers. En France, en Allemagne, dans ces zones-là, il y avait beaucoup de fauconnerie au 15e et 16e siècle. Et donc, le pèlerin était très recherché. Alors, le pèlerin, l'oiseau, mesure 50 cm posé, environ, et il a une envergure de 1 m, 1 m 20. On voit que par rapport au grand-duc, c'est beaucoup plus petit déjà. Son poids, 750 grammes, hein, 1,3 kg. Le mâle étant plus petit d'un tiers que la femelle. C'est pour ça qu'on l'appelle le tiercelet. On l'entend crier souvent de février à juin, à fin juin, mais surtout pendant les pariades, au mois de février-mars. Alors le mot faucon vient du latin falx, qui signifie la faux. Et je pense que c'est un rapport aux ailes longues, étroites et pointues de l'oiseau. Alors les pèlerins, on dit que ce sont les princes du vol, parce qu'en piqué, il peut atteindre 300 km/h. Alors pour prendre une palombe en plein ciel, il monte, il domine sa proie, et puis il se laisse tomber et il fait ce qu'on appelle une ressource, c'est-à-dire qu'il passe sous l'oiseau et il l'attrape avec ses serres. Quand il attrape une palombe en plein vol, on dirait vraiment qu'on a ouvert un oreiller de plumes dans le ciel. Toutes les plumes, la palombe est littéralement plumée sur l'impact. Bon, là on voit qu'il a encore des traces de sang sur les pattes de sa dernière victime. Voilà. Donc voilà l'oiseau en vol, c'est très difficile à saisir, mais on s'imagine la rapidité du vol. Donc voilà, là on a un pèlerin qui est posé sur une branche près de l'herbe. Voilà, il se met dans les branches, il surveille les petits. Bon, il se gratte, il se nettoie un petit peu. On voit encore le sang sur le plumage. La toilette n'a pas été faite comme il fallait, mais bon. Donc voici une jeune femelle, on le reconnaît parce qu'elle est tachetée sur la poitrine. Les taches vont se dissiper petit à petit. Hein. Voilà un superbe mâle. Le mâle est plus blanc devant, sur la poitrine. Alors ce que je vous disais, la forme des ailes longues, effilées, pointues, ça fait vraiment penser à une faux. Voilà un adulte au bord de l'air. Et donc pour faire des images du pèlerin en vol, pour ceux qui connaissent, il faut à peu près régler l'appareil photo au 2000e en vitesse, parce que ça va très vite. Voilà notre mâle. Ce sont des oiseaux vraiment d'une beauté vraiment magnifique. Voilà un décollage. Alors la toilette. Si un jour vous avez la chance inouïe de trouver un endroit où le pèlerin fait sa toilette, que ce soit sur une branche ou sur un rocher, vous pouvez préparer un affût longtemps à l'avance, mais il faut être hyper bien caché et ne voir l'oiseau que dans l'objectif. Il faut être bien caché parce que nous, on n'a jamais vu un pèlerin à 10-15 mètres parce qu'il voit le brillant de votre œil et il dégage. Il a une vue vraiment perçante. Alors, petite parenthèse, la VQR a produit, on vous disait tout à l'heure, un DVD où vous verrez sur ce DVD, M. Bourrel explique sur une vidéo comment on fait un affût naturel. Vous pourrez vous procurer le DVD ce soir si vous voulez. Donc l'entretien de la voilure, l'entretien des plumes et des pattes et des serres, tout ça c'est fondamental pour assurer la survie de l'oiseau, comme pour le grand-duc. Bon là c'est quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête, bon il a levé la tête. Mais, hein. Alors la toilette, là il attaque très méthodiquement sa toilette. Là, il part par le côté droit, d'abord à la jointure de l'aile, et ensuite, il va s'occuper de toutes les plumes qui sont sur le côté. Ensuite, il va passer sur le devant. Il va prendre l'autre côté. C'est vraiment réglé comme du papier à musique. Bon, ça, c'est un petit oubli. Bon, c'est rien, il ne tombe pas grand-chose. Hein. Voilà, et là, c'est sûrement ce qu'il y a le plus joli dans la toilette, c'est que ces plumes-là, les plumes de la queue, ce sont elles qui dirigent et qui donnent la force au moment de l'impact. Elles sont fondamentales. Ces plumes-là, elles guident le missile au millimètre. Donc, il faut qu'elles soient nickel. Et il les prend alors une par une et il va aller jusqu'au bout pour les lisser et remettre toutes les barbules dans le bon ordre. Voilà, bon, après il s'étire parce que, évidemment, ça fait un moment qu'il est là. Moi, j'ai assisté à une toilette, ça a duré plus de 20 minutes. Voilà, il s'étire, d'abord une patte, voilà, ça ne loupe pas, de plus en plus fort, en équilibre. Voilà, et à la fin, eh bien, comme chez tous les oiseaux, c'est l'ébrouement pour remettre les plumes dans l'axe. Ensuite, il attaque l'entretien des serres, et en particulier de la griffe qui est au bout de la serre elle-même. Voilà, il se gratte pour bien voir, pour être sûr que ça s'accroche bien. Voilà, un petit coup derrière la tête. Et le bec, c'est capital le bec. Il faut qu'il soit d'une propreté absolue. Parce qu'il va le frotter sur la branche, comme le faisait le grand-duc tout à l'heure, de gauche à droite, gauche à droite. Il faut qu'il soit performant au moment de tuer. C'est avec le coup de bec qui va lui permettre de tuer sa proie. Voilà, ça c'est l'attitude finale de la toilette. On dirait vraiment un avion de chasse qui est programmé pour attaquer. Ça a à la fois de l'élégance et de la puissance. Bon, après, ce sont les images classiques d'un envol. Donc, les amours. Lors des périodes, le couple s'adonne à des jeux aériens spectaculaires. Je n'ai ni photos ni vidéos à vous proposer, mais le couple fait des loopings dans le ciel. Alors, ils montent très haut en altitude et redescendent. Ils font des poursuites à des piquets vertigineux qui peuvent atteindre 350 km/h. C'est très beau à voir, mais très difficile à saisir. Voilà, alors les accouplements, eh bien, ça c'est une jeune femelle, voilà. Et puis il y a le mâle qui est arrivé un peu brusquement, et je crois qu'il s'est mal pris là. Hein. Il n'y a qu'à voir la tête de la femelle. Donc ça ne marche pas. Hein. Et puis au bout d'un moment, quand elle le voit voler en dessous, elle se dit que finalement, tout bien considéré, on pourrait peut-être rediscuter et reprendre le sujet. Et voilà, l'oiseau, alors vous voyez qu'il y a des serres meurtrières, c'est comme le grand-duc. Il s'est posé sur le coude, là on le voit bien. Il ne faut pas qu'il blesse la femelle, évidemment. La femelle se met en pente, la queue toujours mise sur le côté. L'accouplement dure une seconde et demie, pas plus, ça va très vite. Alors ça c'est très important, c'est la scène capitale, c'est elle qui va décider de l'avenir de la nichée. En fait, le mâle a fait visiter à la femelle plusieurs trous dans la falaise et ils se sont mis d'accord sur celui-là. Mais elle a posé ses conditions parce qu'elle va avoir la preuve qu'il est capable de la nourrir pendant un mois. Et elle et puis les petits qui vont arriver. Donc là, il lui a apporté un cadeau. Apparemment, c'est une grive. Et tout ça pour lui prouver qu'il est capable de la nourrir. Et si la femelle accepte, elle va le manger de son côté sur ce qu'on appelle le lardoir. C'est l'endroit où généralement elle dépiote ses proies. Et ça vaut ce qu'on dit contrat de mariage, location d'un bail de mois et demi, enfin, voilà, s'ils ont scellé l'entente là. Et ici sera l'air. Alors les poussins, les œufs sont pondus toutes les 48-72 heures, il y a 3-4 œufs en principe. L'incubation dure 30 jours et elle est assurée aux deux tiers du temps par la femelle. Voilà, la femelle va garder les petits sous elle pendant une semaine. Et voilà les petits, voilà, ils sont là, ils ont 15 jours à peu près, ils sont pas gros, hein. Alors il y a beaucoup de blanc, un petit peu de marron, ils passent leur temps à s'épouiller, à se gratter. Voilà, là, sur cette aire, le matin, vous avez une lumière splendide, et on peut voir vivre les petits tranquilles. Alors il y en a deux souvent, trois, ça c'est la norme. Une année, il y en a eu quatre, mais c'est quand même assez rare. Là, il y a papa qui est en haut, qui monte la garde. Et puis, des fois, il y a des squatteurs. Alors là, il y a eu des corneilles mantelées dans cette falaise. Et donc, elles viennent voir s'il n'y a pas moyen de nicher par là. Et cette année-là, elles ont niché dans le trou qui est à gauche, là où il y a la corneille. Et pourtant, il y avait la mère qui regardait. Et vous voyez, le petit, on le voit tout à fait à droite. Et il est microscopique encore. Hein. La mère le protège, mais bon, Ça s'est pas trop mal passé entre la corneille et le pèlerin. Voilà, là, ils ont grandi un petit peu. Chaque fois, ils grandissent. Ceux qui grandissent, ils perdent un petit peu de blanc, de duvet. Vous voyez, la corneille, elle s'est même rapprochée. Voilà, ça, c'est un stade de plus quand on étire l'aile, commence à battre un petit peu des ailes. C'est signe qu'il va pouvoir envisager d'aller plus loin. Dans l'air, il y a beaucoup de plumes et de duvet. Alors, quand les petits commencent à battre des ailes, tout ça, ça s'envole, ça fait de jolies images. Voilà, il commence à être un petit peu grand. Alors ça c'est la cohabitation et la gentillesse des petits faucons. On n'en a jamais vu se battre entre eux. On dit qu'il y en a qui mangent le petit frère quand il n'y a pas assez à manger. Bon, c'est possible, nous, on l'a jamais vu. Alors là, des fois, il y a un petit bisou, comme ça, manière. Voilà, celui-là, il réfléchit. Il n'a pas l'air très intelligent, mais il réfléchit. Alors là, on change complètement de lieu. Cette aire, elle est dans en vallée de la Dordogne. Je tenais à vous montrer ces images parce que des aires comme ça, on n'en a pas souvent. Là, on est placé exactement à la hauteur des oiseaux. C'est assez rare et je remercie Alain, je ne sais pas s'il est là ce soir, qui nous a indiqué l'endroit. En fait, entre nous et les oiseaux, il y a un vide entre nous vertigineux. On était sur une falaise en face, on a réussi à les photographier de là. Donc, vous voyez les deux parents sur l'air. Alors, les nourrissages, donc je vous disais, c'est le père qui nourrit tout le monde. Alors, si la maman n'est pas contente du menu, alors là, ça tousse. Hein. Elle se met au bord de l'air et puis elle l'engueule le mâle quand ça tarde à venir et que les petits ont faim. Alors, au cri, quand vous connaissez un petit peu, vous savez que ça va barder dans le couple. Hein. C'est comme s'il disait, tu ne vas pas faire les courses, non, bientôt, ou quoi, là. Enfin, ça revient à ça, quoi. Là aussi, elle se plaint, vous voyez, elle n'est pas contente. Hein. Alors ça, c'est une palombe, enfin ce qu'il en reste, qui a été dépouillée au bord d'une route. C'est M. Morel qui avait assisté à la scène quand le pèlerin dépiautait sa proie et donc il a fait une photo de la palombe. Il n'en reste pas grand-chose. Hein. Et alors, chaque fois, c'est la mère qui couve et qui nourrit les petits. Et c'est le mâle qui pourvoit donc à la nourriture de tout le monde. Voilà, c'est maman. Voilà, alors quand les petits voient les parents qui arrivent pour les nourrir, ils crient. Ils crient. Et là aussi, quand on les entend, on sait que les adultes arrivent et ça, on ne peut pas se tromper. Et quand on connaît un peu, quand on a fait pèlerin en deuxième langue, ça marche à tous les coups. Voilà, ici, c'est la maman qui entretient l'air. Elle débarrasse les déchets, les carcasses, les eaux inutiles. Alors, c'est toujours la maman qui nettoie. Bon, je ne ferai pas plus de commentaires, mesdames. Oui, chez les compères, oui. Donc, voici l'attitude caractéristique des petits. C'est l'attitude de supplication. Pour être nourri, regardez, ils se mettent la tête à l'envers, littéralement. Voilà, donc c'est pour dire « à moi, à moi ». Voilà, et quand ils ne sont pas tournés comme ça, ils ont le bec grand ouvert et ils crient de toute leur force. Voilà notre apport. Et le petit a toujours cette tête tournée. Et l'autre à gauche, je pense qu'il a déjà mangé, doit dormir. Et celui à droite, eh bien, où il mange, où il attend son tour. Voilà notre apport. Voilà, ça ne s'arrête pas. Ils nourrissent vraiment sans arrêt. Alors celui-là, il commence à se faire grand et ils sont capables de dépiauter tout seul la proie qui leur est amenée. Voilà, celui de droite, il déchiquette, là. Voilà, il en prend une partie, il la promène, il fait le kéké avec. Parce qu'il est tout content. Voilà, donc là, cet affût de la Dordogne, on voit la mère qui littéralement gave ses poussins avec des petits morceaux de viande. Ça, c'est vraiment des images extraordinaires. On a rarement la possibilité de les faire. Voilà, et quand on veut faire les photos, il y a toujours une branche qui gêne. Et puis là, c'était pas le cas. Donc la femelle arrive, le mâle part, ça se succède sans arrêt. Alors là, sous le nid, il y avait des fougères. Et ce nid était là depuis des années. Et puis un jour, il a fait un gros orage. Et les fougères sont tombées. On va le voir après. Voilà. Thank you. repas. Donc, l'émancipation, vous voyez, là, ils ont presque la taille des adultes. Bon, ils s'ennuient. À vrai dire, ils s'ennuient au bord de l'air. Donc, ben, ils se grattent, ils s'épouillent, ils se regardent les pieds. Voilà, ils battent des ailes. Enfin, bon, c'est la vie de l'air. C'est tous les jours pareil. Voilà, chaque jour un peu mieux, un peu plus souvent, avec un peu plus d'équilibre. Au début, on a l'impression qu'ils vont se casser la figure, mais non. Voilà, l'air commence à être plus suffire aux exercices. Il n'y a plus trop de place là. Et à mesure qu'ils grandissent, bien sûr, les plumes sont de plus en plus belles. Il y a de moins en moins de UV. On voit bien qu'on n'est pas loin du départ là. Voilà, parfois, ils passent beaucoup de temps à s'entraîner. Des fois, pendant un quart d'heure à 20 minutes, ils battent des ailes. Et donc, là, si on, sur cette aire de Dordogne, si on grossit suffisamment, vous voyez des bagues de pigeons voyageurs. Des bagues de pigeons voyageurs. Monsieur Borel avait trouvé un lardoir. Il en avait répertorié une trentaine. Donc, il ne fait pas bon être pigeon voyageur dans le secteur. Voilà, ça c'est la vie tranquille sur l'air. Ils voient arriver les parents, avoir la gueule qu'ils ouvrent. Voilà, ils crient. Ah, ils grossissent vite, bien sûr. Celui-là, il mange une pâte d'oiseau. Voilà, celui-là, un morceau de viande. Voilà, on voit que l'air, elle est assez étroite, mais bon, un pèlerin, ça ne demande pas beaucoup de place. Voilà, la vie classique sur l'air, hein, comme tous. Hein. L'amitié de la fratrie, là aussi. Toujours des exercices. Alors, l'année d'après, les pèlerins n'ont pas reniché sur cette aire, comme je vous le disais, parce que les fougères étaient tombées. Et donc, ils ont reniché, ils ont fait leur aire dans une grotte où on ne les a jamais vus auparavant. Et au moment de l'élevage, on n'a pas pu les voir. La mer rentrait dans la cavité, mais c'était assez profond et... les oiseaux ont été élevés plus en recul, on ne pouvait pas les voir. Quand les oiseaux ont été assez grands dans la journée, ils venaient au bord à 20 mètres à peu près du chemin où on se trouvait. Puis il n'y avait aucune inquiétude, hein. Ils étaient tranquilles, ils faisaient tout leur cirque là. Et comme vous les voyez, on a pu faire des images de très près, je pense que ce sont quand même des images rares pour des oiseaux sauvages. Voilà, c'est un endroit isolé en vallée de la Dordogne, il n'y a pas un habitant en kilomètre carré là-bas. Hein. Toujours pareil, on retrouve toujours les mêmes gestes pour enlever les turrots là, qui les gênent, les plumes qui poussent, qui les démangent, l'entraînement au vol, toujours. Et voilà, papa qui surveille, toujours de loin. Alors, le stade suivant, comme pour les oiseaux, c'est l'autonomie. Là, ils sont capables de manger seuls, vous voyez. Alors, un jour, on les retrouve à 10 mètres de l'air, comme on pouvait trouver les grands-ducs. Et celui-là, il bat des ailes, mais je peux vous dire qu'il est bien embêté. On rigolait tout seul quand on faisait les images, parce que d'abord, il a appelé maman. Et deuxièmement, il battait beaucoup des ailes, mais ça ne changeait pas. Vous voyez, il restait toujours sur la même touffe. Il ne s'avançait pas beaucoup. Donc, il a encore appelé maman. Alors, je ne sais pas ce qu'elle lui a conseillé, mais après, il est reparti à pied. Il s'est dit qu'avec les ailes, ça ne marcherait pas. Donc, il allait revenir à pied avec l'air, et que ça se passe à l'air, et que ça se passerait mieux comme ça. Voilà, et celui-là, on l'a trouvé un matin à 10 mètres de l'affût, et on entendait la mère gueuler, parce qu'en fait, on était tout près. Au début, on ne l'avait pas vu. Et ce sont les cris de la mère qui nous ont alertés. Donc, on s'est éloigné, et celui-ci finira par s'envoler, et puis on ne le reverra plus. Donc voilà, on a dit que le grand-duc était l'empereur de la nuit, que le faucon pèlerin était le prince des airs. Alors celui-là, c'est la cerise sur le gâteau. Comme dirait M. Borel, le Ticodrome Échelette, c'est une bricole. Alors la bricole, c'est-à-dire que c'est un oiseau qui mesure au maximum... qui va peser entre 15 et 20 grammes. C'est vraiment petit. Avec le bec, c'est à peu près de la taille d'un moineau, approximativement. Hein. Alors, Ticodrome, l'origine du mot Ticodrome, je crois que c'est le Ticos, c'est la falaise, le mur, le caillou. Et drôme, ça vient de l'endroit où les choses circulent librement, le boulodrome, le vélodrome, voilà, etc. Et donc, échelette, normalement, c'est une petite échelle composée sur le bas des ânes à l'époque où on y attachait les seaux de lait ou autre, pour que les ânes ne se blessent pas. Donc, on les mettait sur le côté. Alors, pourquoi tichodrome échelette ? Ben, tout simplement, peut-être parce qu'ils montent toujours comme sur une échelle. Voilà, ils montent toujours verticalement. Et s'ils tournent à droite ou à gauche, ils cèdent des ailes qu'ils ouvrent. Quand ils ouvrent les ailes, c'est un plaisir. Regardez-le, les couvertures à l'air sont rouges, les taches blanches. Voilà, regardez cet équilibre, cet oiseau est excessivement beau. C'est une vraie rareté. Alors en région Rhône-Alpes, il y a une étude qui a recensé à peu près 150 couples. Pourtant, la région Rhône-Alpes, c'est pas petit. Hein. En Tarn-et-Garonne, on a toujours eu des tichodromes échelettes. Pourtant, c'est un oiseau de montagne qui niche entre 1500 et 2000 mètres. Ici, on le voit sur les parois des falaises, les châteaux, des murailles, des vieux murs. Alors, il arrive à Toussaint, à peu près, et il repart dès les premiers beaux jours, là, vers février-mars. Et souvent, quand on cherchait les grands-ducs avec les jumelles, on disait « j'ai un tico, là, j'ai un tico ». Voilà, donc ici, il est à peu près partout. Alors, les toilettes chez les tichodromes, c'est toujours assez rapide, hein. Le tichodrome, c'est un sprinter. Quand il se nettoie, on se demande comment il arrive à se tenir. Voilà, il a un bel équilibre. Donc, vous voyez la serre arrière. Voilà, avec ça, il ne peut pas décrocher. Hein, il se tient bien. Hein. Voilà, c'est un oiseau qui ne tient pas en place. Ça, c'est du vif argent. Avec un appareil photo, je vous assure, il vous rend furieux. Qu'à chaque fois que vous pensez l'avoir dans l'objectif, eh ben, ça y est, déjà un mètre à droite, un mètre à gauche, il est déjà parti. Voilà, c'est très difficile de l'attraper. Alors les dièdres, ça ne lui pose aucun problème. Hein. Ceux qui font de l'escalade savent que c'est difficile à franchir. Lui, pas de problème. Il va passer à droite, vraiment, tranquille. Alors les images en vol, j'en ai très peu parce que c'est très difficile à attraper. Voilà, toute la beauté du tichodrome. Quand je vous dis que c'est une cerise sur le gâteau après les deux rapaces que l'on vient de voir. Alors, on l'appelle aussi l'oiseau des murailles. L'oiseau des murailles ou l'oiseau papillon, peut-être à cause de ses couleurs. En plus, comme il bouge sans arrêt d'un côté à l'autre, on a vraiment l'impression qu'il papillonne, au sens propre du terme. Voilà, sur certains vieux murs, il y a de la chaux, parce qu'il n'y avait pas de mortier de ciment à l'époque. Et donc là-dedans, il trouve beaucoup de trous, beaucoup de fentes. Et lui, comme il mange surtout des araignées, des bricoles de ce genre, ben, ça lui convient parfaitement. Voilà, il cherche dans ces trous-là, il trouve ce qu'il lui faut. Là, par exemple, il mange une punaise. Voilà le type même de la roche qu'il adore. Il y a plein de trous, il n'y a pas de joint entre les pierres, donc il peut mettre son bec partout où il veut. Et comme il est long et courbe, là, c'est sûr, il va faire une chasse, ça lui va très bien. Vous l'avez très rarement apporté. Là, il doit être à peu près à 8-10 mètres, mais on ne l'a pas vu souvent à cette distance. Voilà, pour terminer, la dernière image pour le tichodrome. Alors, merci. Merci. Voilà, Monsieur Borel. Monsieur Borel qui nous a quittés récemment. Donc, je tiens à remercier les amis du Vieux-Saint-Antonin et son président, Monsieur Leroy, la mairie de Saint-Antonin, évidemment. Et je remercie la VQR, qui est l'association vidéo Quercy-Rouergue, qui m'accompagne dans ces projections. Alors, Françoise, qui est à côté de moi, qui a réalisé tous les montages vidéo, et Étienne, qui est aux commandes. Alors, la VQR a produit des films sur le patrimoine matériel et immatériel de notre région. Et je vous assure, acheter ces DVD, il y a des trésors dedans. Il y a des trésors. Donc, elle a réalisé aussi un DVD qui est en vente ce soir au prix de 10 euros. Ce DVD reprend le diaporama que nous avions présenté à Casal. Il est agrémenté des commentaires, pas tous, mais beaucoup de commentaires de M. Borel qui avait été enregistré ce soir-là. C'est aussi un hommage que nous lui rendons. Voilà, vous pouvez également vous rendre sur le site quercyanimalier.fr où vous retrouverez beaucoup de nos photos sur plein de sujets différents. Vous pourrez aussi laisser des commentaires parce que toute critique est constructive. Voilà, n'oubliez pas non plus le site de Michel. N'hésitez pas à lui demander son adresse, il se fera un plaisir de vous la donner. Merci à vous d'être venu. Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
On a 5 minutes pour des questions, s'il y en a.
Alors, j'avais une question. Combien de temps vit un grand-duc environ ?
Alors, le grand-duc a une espérance de vie dans la nature qui peut aller jusqu'à 21 ans. Il y en a un qui a réussi à vivre près de 80 ans en captivité. 80 ans, ça a été le record. Mais autrement, en principe, c'est 21 ans maximum.
Pouvez-vous nous dire quel matériel vous utilisez, notamment quels objectifs ?
Alors, l'objectif qui a été utilisé principalement pour ces photos-là, c'est un 600 F4 rallongé avec un TC1-4 pour ceux qui connaissent. Donc ça fait vraiment un bel objectif, c'est un 60 mm. C'est vraiment très gros, ça va très loin. Après, bon, moi j'utilise le Nikon personnellement, mais après ça dépend des goûts.
Quelle période de l'année, s'il vous plaît, peut-on trouver éventuellement des plumes sur les chemins de randonnée ?
Alors, ça, c'est tout à fait aléatoire. Les plumes, je pense que quand ils les perdent, c'est surtout lors d'une attaque de proie. Maintenant, comme je ne sais pas où c'est qui les attaque, les proies, c'est vraiment aléatoire. Maintenant, vous savez que posséder une plume de grand-duc, c'est passible d'une amende parce que le grand-duc est une espèce protégée. Et comme toutes les espèces protégées, on n'a pas le droit de détenir ne serait-ce qu'une plume. C'est vraiment... Même pas de duvet, oui. C'est vraiment idiot, mais bon. C'est...
Moi, je voudrais juste vous demander une précision, si vous le pouvez, oui, sur les falaises qu'on voit. C'est les falaises de Saint-Antonin, c'est les falaises d'où ?
C'est les falaises des gorges de l'Aveyron. Partout où vous passez en voiture, vous voyez des falaises à pic, là. Et voilà. Alors, pour construire une aire, le grand-duc a quand même besoin d'un escarpement rocheux abrité des vents dominants et de la pluie, si possible. Et la plupart du temps, devant l'aire, il y a un petit peu de végétation, ce qui permet un petit peu de canoufler. Mais c'est pas forcément systématique. Il y a certains hiboux grand-ducs qui nichent carrément au sol, au pied d'un buisson, quand il n'y a pas de falaise. Ils nichent au sol. Et ils vivent la journée sur les arbres. On appelle ça des grand-ducs arboricoles. Mais la plupart sont dans les falaises. Alors, il y a une vingtaine d'années, les grands-ducs étaient vraiment en grand danger dans le secteur. Moi, j'en trouve de plus en plus. Bon, pour moi, j'ai répertorié à peu près 14 couples dans la vallée. Bon, ça va loin, la vallée, quand même, hein. Mais j'ai à peu près 14 couples et puis quelques-uns à définir encore, à savoir si c'est vraiment des couples que je n'avais pas répertoriés. Mais si on les protège un peu, et le but de ce diaporama, c'est surtout que vous appreniez à les connaître et surtout à aider à les protéger.
Pas d'autres questions ? On va vous remercier.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.
Merci pour cette conférence qui nous a touchés et émus, je dirais. Merci.
Alors, bravo.
Merci.